Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique sur France Culture, pour terminer cette émission Soft Power. Ce soir, nous parlons avec nos deux invités, Gilles Fontaine, qui est resté depuis le début de cette émission, et Christian Paul, ancien ministre. Nous parlons de l'intelligence artificielle. A-t-elle besoin d'éthique? Et plus précisément, nous allons poser la question. Alors, nous reviendrons sur l'intelligence artificielle en Europe. Est-ce que nous sommes actifs et leaders dans ce secteur? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à un cadre légal pour l'intelligence artificielle? À quoi servent les conseils qui tente de réguler ce secteur, comment on peut le faire? Et pour commencer, on évoque Google et son conseil éthique pour l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, Google a annoncé le lancement, la création du Google AI Ethics Board, c'est-à-dire un conseil éthique qui a été créé pour guider Google dans ses développements en matière d'intelligence artificielle. Il y avait 8 membres, dont d'ailleurs 3 femmes, mais 2 de ces membres, et 2 femmes précisément, Kay Coles James et Diane Gibbons Drone, sont ou ont dû démissionner, alors même que Alessandro Acchitti, l'un des autres membres, a démissionné également. La question qui se pose ce soir, et on commence par ça, peut-être avec vous, Gilles Fontaine, à quoi peut bien servir un conseil de ce type? Et les choses sont plutôt mal parties pour Google, puisque 10 jours après sa création, 3 de ses membres disparaissent, et le débat est assez vif.
Il n'y a plus de comité éthique, voilà. Et donc c'était parti pour le monde d'une bonne intention. Pourquoi un comité éthique sur l'intelligence artificielle? Google n'est pas le premier à avoir à prendre ce
Microsoft
genre
et Facebook en ont un.
Effectivement, apparemment, de leur côté, ils ont réussi à plutôt bien organiser les choses. Eh bien, pour répondre, je pense à une de grosses inquiétudes, aussi bien du grand public que des politiques et des administrations, sur l'avenir, le devenir de ces technologies qui sont aujourd'hui un peu partout, hein, dans ce que développent les grands groupes de technologies, aussi bien américains que chinois et en Europe. Impossible de créer sa start-up aujourd'hui s'il n'y a pas le mot intelligence artificielle quelque part. Derrière intelligence artificielle, il y a il y a le mot artificiel, et puis il y a les mots aussi machine learning, notamment, qui font un petit peu peur, c'est-à-dire qu'on apprend par des algorithmes aux machines à apprendre toutes seules et à tirer des conclusions et à prendre des décisions par elles-mêmes. Les applications les plus immédiates qu'on peut voir et les plus visuelles, c'est ces accidents de voitures autonomes qui se conduisent toutes seules. Et d'ailleurs, Google est engagé très fortement aujourd'hui dans toutes ces activités-là aussi, bien sur ces plateformes logicielles, d'applications logicielles, que ce soit sur les cartes, la navigation GPS, dans son agenda, évidemment dans ses courriers électroniques. Je ne sais pas si vous êtes un utilisateur de Gmail, Frédéric, mais aujourd'hui, Google vous propose carrément de répondre à votre place à certains messages. C'est un petit peu tout ça que Google avait envie d'adresser,
de développer.
De développer. Il n'y a pas forcément de valeur légale, en tout cas derrière tout ce que il n'y a pas de ça, voilà, ce qui primera à la fin, c'est la législation, la réglementation. Mais clairement, on connaît des groupes comme Google, une volonté d'influencer, de peser dans ces débats qui ne font que s'ouvrir aujourd'hui.
Christian Paul.
Oui, ce comité éthique a explosé en vol très précocement, et à la fois parce que sa composition était évidemment extrêmement discutable.
Notamment le président du think tank Heritage Foundation,
voilà,
ultra-conservateur.
Think tank conservateur, et puis un producteur de drones, et on sait que
l'intelligence militaire.
Voilà, l'intelligence artificielle est évidemment très utilisée déjà, ou explorée par les industries de défense, et notamment il y avait déjà eu d'ailleurs au sein de Google, il y a un an ou deux, une première rébellion interne, justement pour l'utilisation des drones et plus généralement de ce qu'on appelle aujourd'hui les robots tueurs, c'est-à-dire des instruments qui peuvent tuer sur des champs de bataille sans qu'il y ait véritablement d'intervention humaine, l'intelligence artificielle se substituant à la fois pour le repérage mais aussi pour déclencher l'acte de tuer sans qu'il y ait un humain dans la boucle. Et donc il y a déjà eu au sein de Google ce type de rébellion, de fronde, pourrait-on dire, et il y a eu aussi là, pour la composition de ce comité, une pétition à l'intérieur.
Donc ça veut dire 1800 employés de Google.
Les lanceurs d'alerte, en quelque sorte, sont aussi, et c'est une bonne chose, au sein même de ces grandes entreprises, pour qui l'intelligence artificielle, c'est pas seulement un défi technologique, et là, les spécialistes nous disent qu'il n'y a pas de limite à l'avenir, les techniques vont évoluer et aller très loin, mais ce sont dès maintenant, évidemment, des parts de marché, des enjeux économiques considérables, et il est plus que temps, aux États-Unis, en Europe, en France, à l'échelle de la planète, de créer un cadre de règles. Et la question que posait effectivement Google, qui a voulu se doter d'une instance, au fond, d'autorégulation, même si cette instance faisait appel à des membres externes, la question qui nous est posée, c'est est-ce que l'autorégulation à l'initiative des entreprises, ça suffit, ça peut être une bonne chose, mais est-ce suffisant, ou faut-il aussi que la puissance publique s'empare de ces questions, avec le risque de mal les comprendre, de mal les saisir, d'arriver trop tôt, trop tard. C'est une question qui est permanente depuis les débuts de la révolution numérique. On ne sait jamais comment réguler, mais ce dont on peut être sûr et être sûr ensemble, c'est qu'il faut le faire.
Mais revenons une seconde sur ce conseil, au fond, conseil éthique, on l'appelle comme on veut, comité éthique. Il était en l'occurrence bénévole, il devait se rencontrer 4 fois par an. De toute façon, il n'avait aucun pouvoir. Donc, est-ce que des comités de ce type, que ce soit Google ou autre, ont un quelconque intérêt, Christian Paul ?
Je pense qu'il n'y a pas de raison de les interdire par principe. Non, ça n'aurait pas de sens. Et encore une fois, la réflexion éthique des entreprises est nécessaire. Chose, hein. La question, c'est de savoir comment on le fait. Est-ce qu'on le fait avec des personnalités réellement indépendantes ou en tout cas qui permettent d'assurer la pluralité des points de vue ? Ne remplaçons pas le droit par l'éthique. Ne remplaçons pas l'autorégulation interne des entreprises par des tentatives, on le voit bien là, qui étaient quand même très cosmétique. Hein, je pense que Google, qui a des enjeux considérables dans ce domaine, qui est à la pointe des recherches, pas seulement dans le domaine militaire, bien sûr, mais dans le domaine de toutes les formes de reconnaissance, dans le domaine des véhicules autonomes, qui va s'intéresser évidemment à la médecine prédictive. Google a des enjeux considérables et on ne peut pas penser un instant qu'un comité de cette nature-là, même en interne, est suffisant. Je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux si on a les ambitions que Google a dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Gilles Lefontaine, quelles sont ses ambitions, justement, de Google l'avenir en matière d'intelligence artificielle ?
Elles sont extrêmement importantes, mais Google subit lui-même la pression de géants chinois qui, là-dessus, n'ont absolument, eux, aucune contrainte, aucune limite.
L'un des grands enjeux... Rappelons quand même que la Chine va investir 150 milliards dans l'intelligence artificielle d'ici 2030.
Et là, pour le coup, on sait que les salariés, les employés de ces entreprises chinoises sont très disciplinées et ne vont pas signer des pétitions en se posant des questions sur la portée de leurs inventions et de leurs découvertes. L'un des enjeux, par exemple, extrêmement important pour Google, mais pour d'autres comme Apple ou Facebook, c'est par exemple la reconnaissance faciale, hein, on n'a pas encore commencé réellement à discuter de ces enjeux-là en Europe, mais il va falloir que...
Elle existe déjà sur les téléphones portables.
Ce sont d'ailleurs de très très bonnes technologies chinoises, puisqu'aujourd'hui, les téléphones chinois vous reconnaissent plus facilement
que
l'empreinte digitale. Là-dessus, les Chinois ont pris énormément d'avance parce qu'ils ont beaucoup plus de données, beaucoup plus de liberté que les grands groupes occidentaux et notamment américains. Aujourd'hui, on parle plus de simplement de reconnaissance faciale, mais on vous reconnaît aussi à votre démarche dans la rue. Donc, vous avez beau vous cacher le visage, changer de voix ou autre, on vous reconnaît uniquement à la façon dont vous marchez. Enfin, je pense que Google là-dessus essaye aussi on peut pas les blâmer pour ça, de prendre date.
D'innover, et c'est
d'ailleurs la façon de faire de tous ces grands groupes de l'internet américain, c'est justement de faire bouger les cases, de faire bouger les lignes, comme on dit, d'être toujours un petit peu sur le fil du rasoir et de provoquer, de voir jusqu'où on peut aller, de provoquer un peu le champ politique pour que des décisions soient prises.
Alors justement, sur le champ politique, Christian Paul.
Peut-être
quel cadre légal peut-on imaginer pour l'intelligence artificielle?
Je voulais simplement rajouter que Google n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'en 2018, il avait déjà édicté une charte d'éthique pour l'intelligence artificielle, où on retrouvait beaucoup de bons principes. Mais pour faire le lien avec votre question, Frédéric, je voudrais dire que, quelles que soient les chartes dont se dotent les entreprises, quels que soient les comités d'éthique ou de bonnes pratiques qu'ils constituent en leur sein, c'est loin d'être suffisant. On peut s'accorder sur le fait que c'est une pratique nécessaire, mais c'est terriblement insuffisant au regard des enjeux économiques de ce secteur à l'échelle de la planète, en raison du fait que les risques sont considérables. On a évoqué évidemment les questions d'industrie militaire, mais on pourrait parler de la médecine, on pourrait parler de tous les usages qui vont pénétrer progressivement dans la vie quotidienne.
La voiture autonome, par exemple,
à chaque fois,
les accidents.
On voit qu'il y a, un risque majeur qui est la perte de responsabilité dans la prise de décision. Mmh. C'est pour ça qu'il faut des règles. Demain, s'il y a de la reconnaissance faciale, s'il y a de la médecine prédictive, si, je ne dis pas que j'approuve d'ailleurs ces tendances, mais s'il y a par exemple des allocations sociales qui sont distribuées non plus par des travailleurs sociaux mais par l'intelligence artificielle, s'il y a des décisions de justice qui sont prises, y compris de façon préventive, par des machines et non pas par des juges, il est clair que il faudra être capable de placer très tôt des limites. Donc il y a urgence à le faire. Et ce ne sont pas les entreprises seules qui peuvent le faire. C'est donc vers d'autres acteurs du débat public et de l'action publique qu'il faut se tourner. Il y a des autorités administratives indépendantes, il y a aux États-Unis des régulateurs et des entités, notamment l'une qui s'appelle Partenaires de l'intelligence artificielle, où il y a à la fois les entreprises, mais les grandes ONG du secteur, et notamment l'Electronic Frontier Foundation, qui est la première ONG dans le monde numérique qui a commencé à attirer l'attention il y a plus de 20 ans sur un certain nombre de dérives. Donc du coup, ces entités-là sont absolument nécessaires. Et le président de la République, en France d'ailleurs, avait, au moment de la sortie du rapport Villani, dit très clairement qu'il fallait une expertise mondiale indépendante. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Mais encore une fois, pour terminer, je pense que ce sont des questions dont les pouvoirs publics à l'échelle de l'Europe et à l'échelle nationale doivent se saisir. Ils ne vont pas, les pouvoirs publics européens, régenter l'ensemble de la planète sur ces points. Mais on a vu avec le règlement général sur la protection des données qu'on pouvait de façon très claire montrer que l'Europe, quand elle agit ensemble, ce qu'elle ne fait pas sur la fiscalité, n'est pas forcément impuissante pour la protection des liberté.
Il y a, à mon avis, plusieurs en fait niveaux de réflexion. L'un qui peut paraître un peu trivial, on parlait de voitures autonomes, de véhicules autonomes. Effectivement, c'est le fameux cas où il faudra apprendre à la voiture, en cas de choix drastique, à écraser plutôt le chien, le petit enfant ou la personne âgée qui est sur le trottoir.
Ou le conducteur.
Ou tuer le conducteur qui va s'écraser contre un mur. Bon. Après, il y a d'autres choses qui sont extrêmement importantes. L'une des raisons pour lesquelles les employés de Google ont réagi contre la présidente de la Heritage Foundation, c'est qu'elle a eu des propos assez durs contre les transgenres. On peut même aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, considérons que, notamment dans la Silicon Valley, mais partout dans le monde, la haute technologie, aujourd'hui, c'est à plus de 85% des hommes qui la font. Et c'est des hommes qui conçoivent ces algorithmes. Et c'est effectivement des hommes qui seront à l'origine de ces intelligences artificielles qu'on va fonder. Donc, est-ce qu'on ne sera pas un peu aussi biaisé dans l'usage de ces intelligences artificielles dans le passé qui auront été conçues essentiellement par des hommes?
Pour terminer, une question un petit peu à l'envers, contre-intuitive à nouveau, j'aime bien ce mot. Est-ce qu'on ne voit pas à travers tout ce débat sur l'éthique, les données, les régulations, le problème de cette nécessité de contrôler au fond ces innovations dans l'intelligence artificielle, qui sont débats qui sont si fréquents en Europe? Est-ce qu'au fond on n'est pas en Europe les premiers à parler d'éthique et à vouloir réguler ces industries, mais qui nous échappent puisqu'elles sont faites aux États-Unis, comme si au fond nous on voulait réguler mais ce ne sera pas nous que rend les logiciels et les softwares de ces industries dans les automobiles. Est-ce que c'est pas un peu un problème européen que de toujours penser à réguler et poser des barrières éthiques et à vouloir se préoccuper de ces questions de données, par exemple, alors que les Américains, eux, ils avancent et peut-être ils dirigeront seuls avec les Chinois ce secteur bien loin devant l'Europe.
Il y a deux étages à la réflexion dans cette affaire. Il y a évidemment la domination économique des États-Unis et maintenant de la Chine. Et là, ça relève évidemment d'une bataille économique qui est loin d'être achevée, dont l'Europe a perdu les premières manches. Et la deuxième chose, c'est une bataille de valeurs et une bataille aussi, encore une fois, face à des enjeux et des risques considérables. Et là, on le voit bien, par exemple, dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vrai, il y a quelques années, on aurait pensé que la Chine allait s'exonérer totalement de lutter contre le réchauffement climatique, et l'idée a fait son chemin, y compris en Chine.
Même en Chine.
Aux États-Unis, on le sait, pendant la présidence Trump, on va régresser beaucoup, mais
il y a des contre-pouvoirs,
c'est une bataille,
il y avait
c'est une bataille Obama, de moyen terme. Ouais. Donc là aussi, je pense que pour que l'intelligence artificielle soit une nouvelle marche de progrès pour l'humanité.
Une nouvelle frontière.
Et non, une nouvelle frontière, si on le veut, pour l'intelligence humaine, et non pas un cauchemar numérique supplémentaire, bien, il y a des formidables batailles à mener, et je pense qu'il est très urgent de les préparer, ces batailles.